Ces péripéties éprouvantes n'empêchaient pas notre campagne de continuer à prendre de l'ampleur. À la veille du Super Tuesday, elle se déployait désormais à une toute autre échelle et notre modeste start-up était devenue une organisation plus solide et mieux financée. Nos chambres d'hôtel étaient un peu plus spacieuses, nos déplacements plus confortables. Au début, nous voyagions sur des vols commerciaux et par la suite, nous avions eu notre lot de mésaventures sur des vols charter à prix cassé. Un jour, un pilote nous a fait atterrir dans la mauvaise ville, deux fois de suite. Un autre a essayé de faire démarrer l'avion dont le moteur était noyé en branchant une rallonge à une prise électrique standard du terminal de l'aéroport. J'ai été soulagé que cette expérience se solde par un échec. Même si nous avons dû attendre 2 heures avant d'embarquer, le temps de faire venir un nouveau moteur de la ville la plus proche sur un camion à plateau. Bénéficiant d'un budget plus important, nous avions désormais les moyens d'affréter notre propre avion avec toutes les commodités, un équipage de bord, des repas chauds et des sièges réellement inclinables. Mais ce nouvel essor impliquait des règles, des protocoles, des procédures et une hiérarchie. Notre staff comptait dorénavant plus d'un millier de personnes à travers le pays, et même si mon équipe rapprochée faisait de son mieux pour entretenir la culture décousue et informelle de nos débuts, l'époque était lointaine où je pouvais m'enorgueillir de connaître la plupart des gens qui travaillaient pour moi. En l'absence d'une telle familiarité, les personnes que je croisais au cours d'une journée étaient de moins en moins nombreuses à m'appeler Barack. J'étais devenu « Sir » ou « Monsieur le Sénateur ». Souvent, quand j'entrais dans une pièce, les membres du staff se levaient pour s'installer ailleurs, pensant que je ne voulais pas être dérangé. Si j'insistais pour qu'ils restent, ils m'adressaient un petit sourire timide et se mettaient à parler à voix basse. Je me sentais vieux tout à coup, et de plus en plus seul. Bizarrement, c'était la même chose avec le public qui venait assister à nos meetings. Ils étaient désormais 15 000, 20 000, parfois 30 000 personnes, arborant le logo rouge, blanc et bleu de la campagne Obama sur leurs t-shirts, leurs casquettes, leurs salopettes, faisant la queue pendant plusieurs heures avant de pouvoir entrer dans l'enceinte où se déroulait le meeting. Notre équipe avait inventé une sorte de rituel d'avant-match. Reggie, Marvin, Gibbs et moi sortions de la voiture devant l'entrée de service ou le quai de chargement, puis nous suivions les membres de notre équipe de repérage dans le dédale des couloirs et des coulisses. En général, je passais un moment avec les organisateurs sur le terrain. Je me prêtais au jeu des photos avec une petite centaine de bénévoles et de supporters qui m'assaillaient d'embrassades, de bises et de demandes d'autographes sur à peu près tout et n'importe quoi. Livres, magazines, balles de baseball, faire-part de naissance, ordre de mission militaire. Je donnais ensuite 2 ou 3 interviews. Un déjeuner sur le pouce dans une salle d'entrepôt bourrée à ras-bord de thé glacé en bouteille, de fruits secs, de barres protéinées et de tout ce que j'avais pu demander un jour, même en passant, le tout en quantité suffisante pour remplir les étagères d'un abri anti-atomique. Puis, un petit tour aux toilettes, où j'en profitais pour appliquer un peu de gel fourni par Marvin ou Reggie sur le front et le nez, afin d'éviter que ma peau ne brille trop à l'écran, même si l'un de nos vidéastes m'avait averti que c'était un produit cancérigène. J'entendais monter le grondement de la foule en passant sous les gradins pour me diriger vers la scène. L'ingénieur du son recevait un signal pour lancer l'annonce donnant le coup d'envoi du meeting, surnommé « la voix de Dieu », avais-je appris. J'écoutais sagement en coulisses une personnalité locale me présenter, puis retentissait les mots « le prochain président des États-Unis ». Le rugissement assourdissant de la foule, les premières notes de « City of Blinding Lights » de U2, et enfin, après un petit check point contre point ou une formule d'encouragement, « Allez-y, boss, montrez-leur !» Quelques pas pour traverser le rideau, et je me retrouvais sur scène. Et ce, à raison de 2 ou 3 fois par jour, de ville en ville, d'un état à l'autre. Même si l'effet de nouveauté s'est vite estompé, je n'ai jamais cessé d'être émerveillé par l'énergie pure qui se dégageait de ces meetings. Les journalistes les comparaient à des concerts de rock, et en termes de décibels en tout cas, ce n'était pas exagéré. Mais ce n'était pas ce que je ressentais. Je n'étais pas sur scène pour offrir une performance solo au public, mais plutôt pour essayer de refléter les aspirations des Américains, pour leur rappeler, à travers les histoires qu'ils m'avaient racontées, tout ce à quoi ils tenaient profondément et le pouvoir extraordinaire que tous ensemble, ils détenaient. À la fin de mon discours, quand je descendais de la tribune pour serrer quelques mains le long du cordon de sécurité, je voyais souvent des gens qui hurlaient, qui jouaient des coudes, qui tentaient de m'attraper. Certains pleuraient, d'autres effleuraient mon visage du bout des doigts, et même si j'essayais de les en dissuader, des parents me tendaient leur bébé en larmes par-dessus une foule d'inconnus pour que je les prenne dans mes bras. Toute cette frénésie était assez amusante et parfois touchante, mais c'était aussi un peu déconcertant. Au fond, réalisais-je, Les gens ne me voyaient plus moi, avec toutes mes particularités et tous mes travers. C'était plutôt comme s'ils s'étaient emparés d'une effigie de moi-même pour l'investir d'un million de rêves différents. Je savais qu'un moment viendrait où je finirais par les décevoir, par ne pas être à la hauteur de l'image que ma campagne et moi avions façonnée. Je prenais conscience également que, si mes supporters pouvaient se saisir de ces quelques fragments de ma personne et les remodeler en un symbole d'espoir disproportionné, alors les craintes latentes de mes détracteurs pouvaient de même s'agglomérer en un précipité de haine. Et c'était les mesures engagées pour faire face à cette perspective inquiétante qui avaient le plus transformé ma vie. J'avais été placé sous la protection du Secret Service en mai 2007, quelques mois à peine après le début de ma campagne. Je portais le nom de code Renegade et j'étais escorté d'agents de sécurité 24 heures sur 24. Ce n'était pas la norme. À moins d'être le vice-président en exercice, ou dans le cas de Hillary, une ancienne première dame, en règle générale, les candidats aux primaires n'étaient placés sous protection qu'à partir du moment où ils étaient quasi assurés de décrocher la nomination. La raison pour laquelle une exception avait été faite dans mon cas, la raison pour laquelle Harry Reid et Benny Thompson, le président de la Commission de la Sécurité Intérieure de la Chambre des Représentants, avaient officiellement insisté pour que le Secret Service intervienne plus tôt, était très simple. Le nombre de menaces proférées à mon encontre dépassait tout ce que le Secret Service avait jamais connu. Le chef de l'équipe chargée de ma protection personnelle, Jeff Gilbert, était un type impressionnant. Afro-américain, lunettes, d'un abord affable et sympathique, on aurait pu le prendre pour un cadre d'une société figurant au classement du magazine Fortune des 100 plus grandes entreprises américaines. Lors de notre première rencontre, il m'avait assuré de sa volonté de procéder avec un maximum de souplesse, comprenant que je devais conserver en tant que candidat toute latitude pour interagir avec le public. Jeff a tenu parole. À aucun moment le Secret Service n'a entravé le déroulement d'un meeting, et les agents faisaient tout pour rester le plus discret possible, utilisant par exemple des balles de foin plutôt que des grilles en métal, afin d'établir une barrière de sécurité devant une tribune en plein air. Les chefs des équipes de rotation, âgés de la quarantaine pour la plupart, étaient professionnels et courtois, dotés d'un humour pince-sans-rire. Il nous arrivait souvent de nous installer à l'arrière d'un avion ou d'un car et de nous charrier sur nos équipes sportives préférées ou de parler de nos enfants. Le fils de Jeff était le défenseur de première ligne vedette dans une équipe de football américain en Floride et nous avons tous commencé à nous intéresser à son parcours à l'approche du mercato de la NFL. Reggie et Marvin, de leur côté, étaient cul et chemise avec les plus jeunes des agents et ils allaient souvent boire un verre ensemble à la fin de leur journée de travail. N'empêche, me retrouver soudain entouré d'hommes et de femmes armés partout où j'allais, postés devant chaque pièce où je me trouvais, a été un choc. Ma vision du monde extérieur a commencé à changer, obscurcie par le voile de la sécurité. Je ne pénétrais plus dans un bâtiment par l'entrée principale si l'on pouvait y accéder par un escalier de service. Si j'allais faire de l'exercice dans la salle de gym d'un hôtel, les agents condamnaient d'abord les fenêtres avec du tissu pour empêcher tout assassin potentiel de m'avoir dans sa ligne de mire. Des cloisons pare-balles étaient disposées dans chaque pièce où je dormais, y compris dans notre chambre à Chicago. Et il n'était plus question que je prenne moi-même le volant, même pour faire le tour du pâté de maison. À mesure que le jour de la nomination se rapprochait, mon univers continuait de rétrécir. Des agents supplémentaires ont été assignés à ma protection. Ma liberté de mouvement était de plus en plus restreinte. Ma vie était désormais entièrement dépourvue de toute spontanéité. Je ne pouvais plus, ou du moins plus aussi facilement qu'avant, entrer dans une épicerie ou m'arrêter dans la rue pour échanger quelques mots avec un inconnu. « J'ai l'impression d'être un ours savant dans une cage de cirque », me suis-je plaint à Marvin un jour. À certains moments, je bouillonnais de frustration, tellement fatigué de ce régime à haute dose de meetings, d'interviews, de séances photos et de collectes de fonds, que je m'échappais, pris d'une envie soudaine et désespérée de me payer un bon taco ou de me laisser attirer par l'écho d'un concert en plein air à proximité. Alors, les agents se mettaient à courir derrière moi en murmurant « Renegade en mouvement » dans le petit micro fixé à leur poignet. « L'ours est dans la nature !» s'écriaient Reggie et Marvin, hilars quand ce genre d'épisode se produisait. À l'hiver 2008, je ne m'aventurais presque plus dans ces escapades improvisées. Je savais que cette imprévisibilité rendait plus difficile le travail des agents chargés de ma sécurité et les exposait eux-mêmes à de plus grands risques. Et de toute façon, les tacos n'étaient pas aussi bons que ce que je m'étais imaginé quand je les mangeais au milieu de tous ces gens sur le qui-vive, sans parler de la foule et des journalistes qui s'agglutinaient autour de moi dès l'instant où ils me reconnaissaient. Mes rares moments de répit, je les passais de plus en plus souvent dans ma chambre, à lire, à jouer aux cartes ou à regarder tranquillement un match de basket à la télé. Au grand soulagement de ses gardiens, l'ours s'était habitué à vivre en captivité. Fin février 2008, nous avions désormais pris une longueur d'avance sur Hillary en termes de nombre de délégués qui semblaient impossibles à rattraper. C'est vers cette période que Plouf, toujours prudent dans sa façon de formuler les choses, m'a appelé un jour de Chicago pour m'annoncer ce que, d'une certaine manière, je savais déjà. Je crois qu'on peut dire sans trop s'avancer que si nous jouons bien nos cartes dans les semaines qui viennent, tu vas être officiellement désigné candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis. Après ce coup de téléphone, assis seul dans ma chambre, j'ai essayé de démêler mes émotions. Il y avait de la fierté, j'imagine. La décharge soudaine de satisfaction que doit ressentir un alpiniste en regardant derrière lui la pente abrupte et accidentée qu'il a réussi à gravir. Mais surtout, j'éprouvais un grand calme, sans aucune trace d'exaltation ou de soulagement. J'étais saisi par une certaine gravité, en songeant que les responsabilités de la gouvernance n'étaient plus une lointaine possibilité. Axe, Plouf et moi étions plus fréquemment en désaccord sur la direction à donner à la campagne. J'insistais pour que chacune de nos propositions soit étudiée avec le plus grand scrupule afin d'être inattaquable. Non pas tant parce qu'il me faudrait les défendre pendant la campagne nationale, mon expérience passée m'avait guéri de l'illusion que quiconque prêtait la moindre attention à mes projets de réforme fiscale ou de régulation environnementale, mais parce qu'il était possible que je me retrouve en position de devoir réellement les mettre en œuvre. Ce genre de projection aurait occupé une plus grande partie de mon temps et de mes réflexions si seulement, en dépit des chiffres qui m'annonçaient vainqueur, Hillary n'avait pas continué à s'accrocher. N'importe quel autre adversaire aurait déjà jeté l'éponge. Ses caisses étaient presque vides, sa campagne était dans la tourmente, certains membres de son équipe ayant exprimé des récriminations qui avaient fuité dans la presse. Sa seule et dernière chance de décrocher la nomination était de réussir à convaincre les super-délégués, les centaines d'élus démocrates et de caciques du parti qui disposaient d'une voix à la convention et pouvaient l'attribuer à qui bon leur semblait, de porter leur choix sur elle le jour du grand rassemblement au mois d'août. C'était un bien mince espoir. Si Hillary, au début de la campagne, avait eu les faveurs d'une grande majorité de super-délégués, lesquels annonçaient en général longtemps avant la convention qui était leur poulain, ils étaient de plus en plus nombreux à avoir rejoint notre camp au fil d'une saison de primaire qui n'en finissait pas de s'éterniser. Et pourtant, elle ne déposait pas les armes, jouant à plein son nouveau rôle d'outsider. Sa voix prenait des accents plus intenses, surtout quand elle abordait les difficultés de la vie dans les classes populaires. Elle manifestait sa volonté de continuer à faire campagne jusqu'à la dernière seconde, preuve qu'elle saurait défendre les familles américaines avec la même combativité. Alors que se profilaient les primaires du Texas et de l'Ohio, deux États dont les électeurs, en majorité plus âgés, blancs ou d'origine hispanique, tendaient à pencher en sa faveur, suivis 7 semaines plus tard par la Pennsylvanie, où elle bénéficiait déjà d'une avance confortable, Hillary répétait à qui voulait l'entendre qu'elle avait la ferme intention de continuer à se battre jusque dans la fosse de l'arène le soir de la convention. « Comme un putain de vampire !» râlait Plouf. « On n'en vient jamais à bout !» Sa ténacité était admirable, mais la compassion ne m'étouffait pas non plus. Le sénateur John McCain n'allait pas tarder à être adoubé candidat officiel du Parti républicain, et 2 ou 3 mois supplémentaires de primaires démocrates âprement disputées reviendraient à lui donner une bonne longueur d'avance pour préparer le terrain en vue de l'élection générale du mois de novembre. Cela voudrait dire aussi que, après bientôt 18 mois de campagne non-stop, personne au sein de mon équipe n'aurait un vrai moment de répit, ce qui était d'autant plus regrettable que nous étions déjà tous sur les rotules. Tout cela explique sans doute que nous ayons alors commis la plus grave erreur stratégique de notre campagne. Au lieu de nous fixer des objectifs réalistes et de renoncer à l'Ohio pour nous concentrer sur le Texas, nous avons cherché la victoire par chaos en tentant de remporter ces deux États. Dans l'un comme dans l'autre, nous avons engagé d'énormes dépenses. J'ai passé une semaine entière à faire la navette entre Dallas et Cleveland, entre Houston et Toledo, la voix éraillée, les yeux rougis de fatigue. Le champion de l'espoir avait bien mauvaise mine. Si nos efforts n'ont eu que peu d'incidence sur le scrutin, ils ont accrédité en revanche la théorie avancée par l'équipe Clinton selon laquelle un doublé de Hillary au Texas et dans l'Ohio pourrait fondamentalement changer la donne et remettre les compteurs à zéro. La presse politique de son côté, voyant dans ces deux primaires sans doute mon dernier test avant la nomination et désireuse de prolonger un suspense qui s'était révélé une manne pour les audiences des chaînes d'information, s'est de plus en plus focalisée sur les attaques de Hillary, notamment un spot télé dans lequel elle affirmait que je n'étais pas prêt à gérer le « coup de fil » à 3h du matin, annonçant une situation de crise. Au bout du compte, nous avons perdu et l'Ohio, dans les grandes largeurs, et le Texas, de peu. Dans l'avion qui me ramenait de San Antonio à Chicago après la primaire du Texas, l'humeur de mon équipe était en berne. Michel n'a pratiquement pas desserré les lèvres de toute la durée du vol. Quand Plouf a tenté d'égayer l'ambiance en annonçant que nous avions remporté le Vermont, il n'a eu droit pour toute réaction qu'à de vagues haussements d'épaules. Quand quelqu'un d'autre a formulé l'hypothèse que nous étions tous morts et que nous nous trouvions désormais au purgatoire, condamnés à débattre avec Hillary pour l'éternité, personne n'a ri. C'était trop proche de la réalité. Les victoires de Hillary n'ont pas changé grand-chose à la répartition du nombre de délégués, mais elles ont suffisamment remis à flot sa campagne pour garantir 2 mois supplémentaires de primaires acharnées. Ces résultats ont en outre fourni à son camp de nouvelles munitions pour défendre un argument qui semblait de plus en plus susciter l'adhésion dans les médias, à savoir que j'étais incapable de m'adresser aux classes populaires, que les latinos étaient au mieux mitigés à mon égard, et que de telles faiblesses, dans une élection de cette importance, risquaient de faire de moi un candidat démocrate particulièrement fragile. Une semaine plus tard, j'en étais à me demander si tous ces gens n'avaient pas raison. Cela faisait plus d'un an que je n'avais pas beaucoup pensé à mon pasteur, le révérend Jeremiah Wright. Mais à notre réveil le matin du 13 mars, nous avons découvert sur ABC News une compilation de plusieurs extraits des sermons qu'il avait prononcés au fil des années, habilement montés en une séquence de 2 minutes dans la matinale de la chaîne Good Morning America. On y voyait le révérend Wright appeler l'Amérique les USA du Ku Klux Klan. On y voyait le révérend Wright vitupérer « Non pas Dieu bénisse l'Amérique, Dieu maudisse l'Amérique ». On y voyait le révérend Wright déclarer face caméra que la tragédie du 11 septembre s'expliquait en partie par nos multiples interventions militaires et la violence injustifiée que nous avions répandue à l'étranger, et que l'Amérique n'avait que ce qu'elle méritait. Ces images n'étaient à aucun moment replacées dans leur contexte, historique ou autre. On n'aurait pas pu imaginer portrait plus saisissant du radicalisme noir, ni concevoir message plus efficace pour offenser l'Amérique moyenne. On aurait dit un cauchemar tout droit sorti de l'esprit fiévreux du PDG de Fox News, Roger Ailes. Quelques heures après sa diffusion, la vidéo occupait tous les écrans du pays. Dans mon équipe de campagne, on avait l'impression qu'une torpille venait de percuter la coque de notre navire. J'ai diffusé un communiqué dénonçant vigoureusement les opinions exprimées par le révérend sur ces images, tout en rappelant le bien qu'il avait fait à Chicago dans son église de Trinity. Le lendemain, lors d'une rencontre prévue de longue date avec les rédactions de 2 journaux, puis dans quelques interviews télé, j'ai de nouveau condamné les propos du révérend Wright. Mais aucune intervention de ma part ne pouvait éteindre l'incendie. Les images du révérend tournaient en boucle sur tous les écrans. Les commentaires des journalistes s'enchaînaient non-stop, et même Plouf a reconnu que cette péripétie risquait de nous être fatale. Par la suite, Axe et Plouf se reprocheraient de ne pas avoir demandé à nos équipes de recherche d'obtenir ces images 1 an plus tôt, après la publication de l'article de Rolling Stone, ce qui nous aurait donné plus de temps pour nous préparer et limiter les dégâts. Mais je savais que le vrai responsable de cette bérésina, c'était moi. Je n'avais assisté à aucun des sermons en question, et je n'avais jamais entendu le révérend Wright employer un langage aussi outrancier, soit. Mais je ne connaissais que trop bien ces sursauts de colère qui éclataient de manière sporadique au sein de la communauté noire, ma communauté, et dont il se faisait le porte-voix. Je savais pertinemment que les Noirs et les Blancs avaient, aujourd'hui encore, une vision très différente des questions raciales en Amérique, quoi qu'ils aient en commun par ailleurs. Si j'avais pu me croire capable de réconcilier ces 2 univers, c'était par pur orgueil, le même orgueil démesuré qui m'avait conduit à penser que je pouvais fréquenter à ma guise une institution aussi complexe que Trinity, dirigée par un homme aussi complexe que le révérend Wright, et n'en sélectionner comme sur un menu que les aspects qui me plaisaient. Peut-être était-ce possible en tant que citoyen privé, mais pas en tant que personnalité publique et candidat à la présidence. Quoi qu'il en soit, le mal était fait, et s'il y a des moments en politique comme dans la vie où mieux vaut rester à couvert, sinon battre en retraite, parfois la seule solution est de s'armer de courage et de jouer son batou. Il faut que je fasse un discours, ai-je dit à Plouf, sur la question raciale. La seule façon de gérer cette situation est d'y aller plein pot et de replacer le révérend Wright dans un contexte. Et il faut que je le fasse maintenant, dans les jours qui viennent. L'équipe était sceptique. Le planning des 3 jours suivants était déjà chargé et ne nous laissait pas vraiment le temps de préparer le discours qui aurait pu se révéler le plus décisif de la campagne. mais nous n'avions pas le choix. Un samedi soir, après une journée de tournée électorale dans l'Indiana, je suis rentré chez moi à Chicago et j'ai passé une heure au téléphone avec Favs à lui dicter l'argumentaire que j'avais en tête. Je voulais expliquer que le révérend Wright et l'église de Trinity étaient représentatifs de l'héritage racial de l'Amérique, que les institutions et les individus qui incarnaient les valeurs de la foi et du travail, de la famille et de la communauté, de l'éducation et de la mobilité sociale, pouvaient être encore animés d'un ressentiment et d'un sentiment de trahison à l'égard d'un pays qu'ils aimaient. Mais il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que j'adopte aussi le point de vue opposé, que j'explique pourquoi l'Amérique blanche pouvait se braquer, voire éprouver de la colère face aux accusations d'injustice émanant de la communauté noire. Pourquoi les Blancs pouvaient se sentir offusqués à l'idée qu'on les soupçonne systématiquement d'être racistes ou que leurs propres craintes et leurs propres difficultés quotidiennes ne fassent pas l'objet de la même considération. À moins que chacun ne prenne en compte la réalité de l'autre, voulais-je dire, nous n'arriverions jamais à résoudre les problèmes auxquels les États-Unis faisaient face. Et pour illustrer ce qu'une telle prise en compte signifiait, je voulais inclure une anecdote que j'avais racontée dans mon premier livre, mais que je n'avais jamais évoquée dans un discours politique. La peine et le désarroi qui m'avaient saisi un jour, lorsque j'étais adolescent, quand j'avais vu toutes prendre peur face à un mendiant devant un arrêt de bus. Pas seulement parce qu'il était agressif, mais parce qu'il était noir. Mon amour pour elle n'en avait pas été amoindri pour autant, car ma grand-mère faisait partie de moi, de même que le révérend Wright, de façon plus indirecte, faisait partie de moi. De même qu'ils faisaient tous deux partie de la famille américaine. Après ma conversation avec Favs, j'ai repensé à la seule et unique fois où Toot et le révérend Wright s'étaient rencontrés. C'était à mon mariage. Le révérend avait serré ma mère et ma grand-mère dans ses bras, et il leur avait dit qu'elles avaient élevé un garçon formidable, dont elles pouvaient être très fières. Toot avait souri comme je l'avais rarement vu sourire, et glissé à l'oreille de ma mère que ce pasteur avait l'air tout à fait charmant, même si elle ne s'était pas sentie très à l'aise un peu plus tard, quand le révérend Wright, au cours de la cérémonie, s'est mis à parler du devoir conjugal des jeunes mariés, en des termes bien plus explicites que tout ce qu'elle avait jamais pu entendre dans l'église méthodiste de son enfance. Favs a écrit le premier jet, puis j'ai passé les deux soirées suivantes, jusque tard dans la nuit, à corriger et à reformuler mon discours. Je l'ai terminé à 3 heures du matin, le jour où je devais le prononcer. Dans les coulisses du National Constitution Center à Philadelphie, Marty, Valérie et Eric Whittaker, ainsi que Plouffe, Axe et Gibbs, sont venus nous voir, Michel et moi, pour me souhaiter bonne chance. « Comment tu te sens ?» m'a demandé Marty. « Bien, » ai-je répondu. « Et c'était vrai. Je crois que si ça marche, on va s'en sortir. Si ça ne marche pas, on risque de perdre. Mais quoi qu'il advienne, j'aurais dit ce que je pense. » Et ça a marché. Le discours a été retransmis en direct, et dans les 24 heures, plus d'un million de personnes l'avaient vu sur Internet, un record à l'époque. Les réactions ont été fortes du côté des experts politiques et des éditorialistes dans tout le pays, et celles des spectateurs présents dans la salle, dont Marty, qu'une photo montre bouleversée, une grosse larme roulant sur sa joue, semblait indiquer que j'avais touché une corde sensible. Mais le commentaire qui comptait le plus, c'est celui que j'ai entendu ce soir-là, quand j'ai appelé ma grand-mère à Hawaï. « C'était un très beau discours, Bear, » m'a-t-elle dit. « Je sais que ce n'était pas facile. Merci toutes. Tu sais que je suis fier de toi, n'est-ce pas ?»« Je sais, » ai-je répondu. Et ce n'est qu'après avoir accroché que je me suis autorisé à pleurer.